Bonjour à chacun. Je me réjouis une fois de plus d'être au milieu de vous, avec en plus un peu de beau temps pour une fois, parce que ça c'est une rareté quand même. J'avais prévu de lire avec vous quelques versets de la première épître de Jean, au chapitre 5. Première épître de Jean, chapitre 5, les versets 1 à 5, mais nous n'allons pas les lire tout de suite. Je voudrais resituer le cadre de ces écrits de Jean, que ce soit les trois lettres ou que ce soit l'Apocalypse, et je passe sur l'Évangile. Mais Jean s'adresse à des personnes qui sont bousculées dans leur foi, et il est fortement attaché, donc il est à la fin de sa vie, et il est fortement attaché à reposer les fondements dans un contexte donc où l'Église vacille. Elle vacille sous une double pression, à la fois une pression intérieure et une pression extérieure. Et il me semble que ça peut être intéressant pour nous d'entendre cela aujourd'hui, car je crois que rien n'a vraiment changé, même si la forme du contexte est différente. Alors, juste quelques rappels sur le contexte dans lequel ces lettres ont été écrites, et y compris évidemment cette première lettre. L'Empire romain donc domine tout le bassin méditerranéen. Jésus est né sous le règne d'un certain Octave, qui s'est appelé lui-même Auguste. Et ce n'était pas rien, puisque Auguste, c'était un titre réservé au Dieu, le Dieu suprême. Et cet Octave, pour la première fois dans l'histoire des empereurs, s'était décerné le nom de Dieu. C'était juste en même temps que Jésus naissait. C'est peut-être pas tout à fait innocent, cette histoire. Et quand Jésus est mort, Octave, Auguste n'étaient plus là, c'était Tibère. Et ensuite se sont succédés des empereurs aux noms qui font froid dans le dos. Caligula, Néron, quand on entend ces noms-là, ça évoque de tristes souvenirs, des sanguinaires. Et puis, au moment où l'apôtre Jean écrit, c'est Domitien. Domitien, on en parle moins, mais c'était un tyran qui étendait l'Empire comme jamais il n'avait été étendu auparavant. Rien ne semblait lui résister. Il était très loin dans cette étendue de l'Empire romain. Et c'est le pire persécuteur des chrétiens, même si on retient plutôt le nom de Néron. Domitien a mis en place un peu la solution finale pour les chrétiens. On était dans ce cas-là. Donc un contexte extérieur extrêmement dur dans lequel oui, les chrétiens se trouvaient. Et puis à l'intérieur de l'Église, les choses ne vont pas très bien. Depuis quelques dizaines d'années d'existence, au moment où Jean écrit cela, l'Église a déjà quelques dizaines d'années d'existence, et de faux enseignements sont apparus, en particulier ce qu'on nomme les gnostiques, dont en particulier un certain Cérinthe, qui professe des choses qui nous semblent peut-être étranges maintenant, si nous avons été bien enseignés, mais Jésus ne serait pas vraiment le Christ. Le Christ a habité en lui, mais le Christ est purement céleste. Il est descendu, c'est ce qu'enseignait Cérinthe, il est descendu du Père sur Jésus, l'a habité un certain temps, puis est remonté vers le Père avant la crucifixion. Et Jésus est resté, lui, parfaitement homme quand même, juste habité pour un temps par le Christ. C'est ce qu'il professait. Il professait aussi que seuls certains chrétiens pouvaient connaître la pleine lumière. Les autres, il les méprisait quand même pas mal, et il fallait qu'ils soient éduqués par ces quelques-uns qui seuls avaient accès à la pleine lumière. Et puis une troisième chose qu'il enseignait, c'est une liberté de mœurs, parce que l'Ancien Testament c'était fini, la loi c'était terminée, il n'y avait plus de loi. Donc, les commandements étant dépassés, on pouvait vivre une liberté qui menait très loin. Et cela s'enseignait dans l'Église. C'est pourquoi, quand nous lisons les épîtres de Jean, je ne sais pas si vous avez l'habitude de les lire, mais ça fait un drôle d'effet quand on les lit. On dit, mais il se répète tout le temps. Il ne fait que dire la même chose. Il ne fait que répéter la même chose. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça. Et en effet, il y a énormément de répétitions. À cause de ces deux faits, à l'extérieur, un empereur qui est en train de vouloir éliminer l'Église, et à l'intérieur, un faux enseignement basé surtout sur le fait que Jésus serait un homme et le Christ serait un être céleste venu l'habiter un certain temps, mais Jésus n'est pas vraiment le Christ. Alors, guère étonnant, 1 Jean 5, versets 1 à 5, seulement nous allons prendre ces quelques versets. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quand on sait pourquoi il écrit ça, on comprend mieux. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? Quelques lignes. Dans ces quelques lignes, Jean affronte tout ce qui gangrène l'Église, tout ce qui affaiblit les chrétiens. Dans le même temps, il affronte aussi la pression sociale et politique à laquelle ils sont soumis. C'est un condensé qui pose l'essentiel. Un condensé encadré par les versets 1 et 5. Jésus est le Christ, verset 1. Jésus est le Fils de Dieu, verset 5. Dans la suite de l'Épître, nous voyons aussi quelques variantes. Sans arrêt, ça revient. Jésus est le Christ, Jésus est le Fils de Dieu. Il ajoute plusieurs fois le Fils de Dieu venu en chair. Il est bien de Dieu, mais il est bien homme, parfaitement Dieu, parfaitement homme. Et sans ce fondement, qui nous semble simple, mais sans ce fondement, tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons croire, tout ce que nous pouvons faire est vain. Un fondement, oui, qui nous paraît presque simpliste, dans le contexte où ils étaient, c'était ce qui est en train de gangréner l'Église. Et nous sommes vite atteints par les mêmes choses. Au verset 20 du même chapitre 5, Jean écrit encore « Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous donne l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est le vrai. » Et nous sommes dans le vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Il insiste sur cette notion de Jésus qui est le Christ, avec ce verbe au départ, nous savons. Nous savons. Certitude objective absolue, et une certitude qu'il complète aussi par ce que Dieu a fait pour nous, à travers le Christ Jésus. C'est un petit peu avant, au chapitre 3. Chapitre 3, nous trouvons au verset 5. Vous le savez. Toujours ces mêmes certitudes. Nous savons. Vous le savez. Le Seigneur est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Et au verset 16. À ceci nous connaissons l'amour, c'est que lui s'est défait de sa vie pour nous. Nous savons, vous savez, vous avez l'intelligence, nous connaissons. En faisant nôtre, oui, ces certitudes, nous sommes nés de nouveau en Christ. Comme nous l'avons lu là dans le chapitre 5, premier verset. Donc, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Nous sommes une nouvelle création en Christ. Et nous devons nous membres de la famille de Dieu. Et cette nouvelle identité a des conséquences fondamentales qui ont une résonance particulièrement forte dans le contexte du moment et résonance toujours aussi forte près de 2000 ans plus tard. Alors c'est ces trois conséquences, conséquences de notre identité de né de nouveau par Christ que j'aimerais reprendre encore avec vous. Verset 2. donc toujours notre chapitre 5. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu. Je m'arrête là pour l'instant, on continuera après. C'est extrêmement étrange comme formulation. D'habitude, on lit, et puis nous-mêmes nous professons, exactement la formulation inverse. Nous savons que nous aimons Dieu quand nous aimons les frères et les sœurs. Jean dit exactement l'inverse. Nous savons que nous aimons les frères et les sœurs quand nous aimons Dieu. C'est le signe comme quoi nous aimons vraiment les autres, si nous aimons Dieu. C'est déstabilisant, parce que quel signe? Comment est-ce qu'on s'y reconnaît? Formulation déroutante. La preuve que nous aimons Dieu, nous, c'est que nous aimons notre prochain. La preuve que nous aimons notre prochain, dit Jean, c'est quand nous aimons Dieu. Et la preuve, cette preuve inversée, c'est cette réalité de notre amour pour Dieu qui est mise en premier, en fondement. Une façon pour Jean de lier ces deux facettes de l'amour, comme Jésus l'enseignait. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais en rappelant, au départ, il y a « tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Ça, c'est le point de départ, c'est le point clé. Dans cet épître de Jean, donc au chapitre 3, nous l'avons déjà lu tout à l'heure, ce verset, verset 16, « À ceci nous connaissons l'amour ». C'est que lui s'est défait de sa vie pour nous. Comment nous connaissons l'amour? C'est de connaître son amour à lui. C'est que lui s'est défait de sa vie pour nous. Et puis au verset 1 de ce même chapitre 3, « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Jean, il aime répéter hein, pour que ça rentre. L'amour extraordinaire de Dieu au travers de son Fils, Jésus, nous a inclus dans une famille dont le Père est amour et vérité. Et l'amour entre membres de cette famille est à la mesure de l'amour que nous rendons à ce Père qui nous aime tellement. Cette conséquence de notre nouvelle naissance par l'action de Jésus, le Fils de Dieu, conduit à une autre réalité, parce que je n'ai pas lu entièrement ce verset 2. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Quand nous aimons Dieu, c'est quand nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Jean insiste à de nombreuses reprises sur une saine compréhension de l'amour. Il y revient sans arrêt, vous savez, Jean, sur ces questions d'amour, et de l'amour pour Dieu en particulier. Il faut dire que Jean a une histoire, quand nous lisons dans l'Évangile, c'était un violent Jean. Il a dû apprendre ce que voulait dire l'amour. Pas pour rien qu'il était surnommé par Jésus le fils du tonnerre. Tellement il était violent dans ses réparties. Et il est devenu celui qui a tellement insisté sur une saine compréhension de l'amour. Parce qu'il a dû faire du chemin. Notre amour pour Dieu, rappelle Jean à de nombreuses reprises, se mesure par notre obéissance à sa volonté, à la mise en pratique de ses commandements. Quand nous aimons Dieu, nous pratiquons ses commandements. Et il continue au verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est comme ça qu'on aime, en gardant les commandements. C'est un renversement de nos critères humains. Obéir à des commandements nous semble totalement à l'opposé de l'amour. Parce que notre conception humaine de l'amour est d'abord émotionnelle, sentimentale, voire romantique, liés à nos pulsions, passions, désirs. Mais c'est cela qui a conduit et conduit toujours de nombreux couples à l'échec. Parce que l'amour, dans notre compréhension, se centre sur pulsions, passions, désirs, et au point que l'on revendique aujourd'hui le droit à l'amour temporaire. On s'aime pour 2 ans, pour 3 ans, pour 5 ans. Et puis avant, on recommence une nouvelle histoire d'amour, paraît-il qu'il y en a plusieurs, alors avec quelqu'un d'autre, pour retrouver de nouvelles émotions, avec un nouveau partenaire. C'est une caricature de l'amour tel que le défend Jean, de l'amour de Dieu et pour Dieu, qui imprègne toute sa parole. Car au-delà de l'émotion et des sentiments tout à fait légitimes, et même souhaitables, je dirais, il y a la volonté d'aimer. la décision de se lier durablement, quelles que soient les circonstances, de manifester par des actes répétés ce lien d'amour. Ceci est vrai entre nous et Dieu, comme entre frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien que Dieu parle de son alliance avec nous. C'est comme ça qu'il exprime son amour. Il fait une alliance avec nous. Le véritable amour s'appuie sur une alliance, sur un contrat, avec des engagements. Verset 3, oui, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, à respecter ce contrat entre Dieu et nous. Dans son évangile, Jean dit aussi, rappelle des paroles de Jésus, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » C'est ce que Jésus a dit. Comment on verra que vous m'aimez si vous gardez mes commandements? Celui qui m'aime, dit aussi Jésus, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Encore une autre expression. Et dans la deuxième épître de Jean, il écrit « L'amour consiste à vivre selon ses commandements. » C'est là le commandement dans lequel vous devez vivre, comme vous l'avez entendu dès le commencement. Insistance permanente, obéir au commandement de Dieu paraît insupportable vu du monde. Insupportable. Comme tout à l'heure, nous entendions que « mais répéter toujours les mêmes choses à Dieu, est-ce que c'est supportable ?» Oui, quand on aime. Mais celui qui est né de nouveau dans la foi Jésus-Christ sait qu'il n'en est rien. Jésus d'ailleurs expliquait à ses disciples que les règles religieuses peuvent être insupportables, oui, et tuer l'amour. Vous savez, quand il disait Jésus à propos des scribes, il lit des charges lourdes, difficiles à porter, pour les mettre sur les épaules des gens, en expliquant tous ces commandements justement qui écrasent, qui tuent l'amour. Et il disait en parallèle, mais venez à moi, vous tous qui peinez sous cette charge-là, moi je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge légère. L'amour ne s'épanouit pas dans l'absence de règles, mais dans l'acceptation confiante des commandements de Dieu, adaptés à notre épanouissement et à notre bonheur. La volonté de Dieu, disait l'apôtre Paul aux Romains, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas ce qui est dur à suivre et des règles, mais des commandements qui sont bons, agréables et parfaits. L'auteur du psaume 119 disait « Je fais mes délices de tes commandements que j'aime ». Et Jean rappelle donc dans son épître cette base face au dérèglement des gnostiques qui estimaient qu'il n'y avait plus de loi, plus de règles, qu'on pouvait s'en affranchir. Et cette parole reste d'actualité, on est en plein là-dedans. L'amour, c'est ne plus avoir de règles. On parle d'amour à propos de n'importe quoi. Mais l'amour envers Dieu est totalement lié à l'obéissance, à ses commandements. C'est cela qui crée le véritable amour, c'est cela qui crée un amour solide. C'est sur ce fondement, sur cette alliance librement consentie, que se construit un amour solide qui rejaillit sur les autres. L'amour, c'est d'abord la décision, c'est d'abord la volonté d'aimer. Quand nous aimons Dieu, nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et c'est à cela que nous reconnaissons que nous aimons les autres enfants de Dieu. L'amour a davantage besoin d'obéissance, de soumission à la volonté de Dieu, que d'expériences émotionnelles, encore une fois, même si celles-ci font du bien, même si celles-ci encouragent, mais elles sont trop fugaces pour être le socle sur lequel s'appuie l'amour. Troisième conséquence dans la vie de celui de celle qui met sa foi en Jésus-Christ, Jésus donc qui a donné sa vie pour que nous devenions enfants de Dieu, aimés de Dieu, aimant le Père. C'est la suite de ce que nous venons de lire. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, nous venons de le rappeler, comme Jésus l'a dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Jean relit encore cela, ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Après avoir lié fortement amour pour Dieu et obéissance à ses commandements, Jean lit maintenant étroitement les commandements de Dieu et la délivrance de la pression du monde. Jean ne dit pas que les chrétiens sont des êtres extraordinaires qui triomphent du monde en toute occasion. Non, il garde une forme neutre. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui vient de Dieu est plus fort que le monde. Dieu, par Jésus-Christ, nous a arrachés à la sphère d'influence du monde dans laquelle règne Satan, et il nous a introduits dans la famille de Dieu, dans un royaume qui n'est pas de ce monde, comme il le dit. Paul aux Colossiens dit « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Pas plus tard, maintenant. Par cet acte, l'emprise du monde n'a plus la puissance et la fascination qu'elle avait dans l'ancienne vie. L'attrait du royaume nouveau est devenu notre centre d'intérêt. D'où l'importance, et c'est là qu'on comprend le lien, d'où l'importance de se remémorer sans cesse l'enseignement de Dieu, ce qu'ils appellent les commandements de Dieu, de s'y conformer, de chercher à y ressembler, de façon à ne pas retomber dans l'attirance pour l'ancienne vie. Rester dans les commandements de Dieu, chercher là-dedans le sens de sa vie, conduit à triompher du monde. Au chapitre 2, la même épître, Jean écrit « Vous avez reçu le Saint-Esprit de la part du Christ, de sorte que vous connaissez tous la vérité. Vous connaissez la vérité. Vous avez la connaissance. Vous l'avez tous, pas seulement quelques-uns. Bien sûr, vous n'avez pas toute la connaissance, mais tout ce qu'il faut pour tenir ferme et triompher. Quelle connaissance ? Oui, le détail dans pas mal de versets. Vous avez la connaissance de la vérité sur ce qu'est ce monde et sur sa condition. Nous l'avons lu tout à l'heure. Vous savez que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Connaissance sur Dieu et sur le Christ, qui nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Nous sommes dans le véritable, etc. Il nous a donné la connaissance sur la mission de Christ. Nous l'avons rappelé tout à l'heure, il est venu pour porter nos péchés. Il s'est défait de sa vie pour nous. Nous avons la connaissance sur nous-mêmes, à travers la parole de Dieu. La connaissance sur nos devoirs, sur notre destinée. Nous avons la connaissance sur tout ce qu'il nous faut. Sur le monde et sa condition de perdition, sur la mission de Christ, sur Dieu, sur nous-mêmes, sur nos devoirs, sur notre destinée. Et nous sommes largement équipés pour triompher des faux discours du monde. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Et Jean introduit un deuxième aspect à cette réalité au chapitre 4, verset 4. « Vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et quand on lit ces paroles, en pensant à l'époque vécue, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Au moment où l'empereur Domitien est en train de conquérir la terre, de soumettre les peuples, d'éradiquer les chrétiens, une lutte sans précédent, ces paroles de Jean résonnent particulièrement fort. Jean parle certainement ici de Satan, bien sûr, celui qui œuvre dans le monde, mais celui qui est en vous est plus grand que lui. Mais le profil de Domitien est fortement apparent. Ainsi, quand il dit, comme nous l'avons lu, « Celui qui est né de Dieu triomphe du monde », Jean évoque l'influence de la pensée du monde, mais aussi les pouvoirs qui peuvent impressionner et faire trembler. Nous sommes parfois dans une situation où on se demande, mais est-ce qu'il y a une issue? Nous ne vivons pas une situation aussi terrible, et pourtant nous sommes facilement impressionnés quand nous rencontrons simplement l'opposition, quand il faut aller à la rencontre d'une société qui affiche son mépris de Dieu. Comment réagir actuellement dans les dernières lois qui ont été votées, vous les connaissez, et on se dit, face à cette société, mais elle va nous écraser, elle est plus forte que Dieu, Dieu est bafoué, celui qui est en vous est plus grand que celui qui domine ce monde, que celui qui manipule ce monde. Il est bon de relire cette déclaration de Jean. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Pas quelqu'un d'extraordinaire qui triomphe du monde. C'est celui qui reste dans cette foi ferme, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il n'y a pas d'autre recours à nos tentations ou à nos craintes que la foi. Recours à la portée de chacun de nous. La foi, c'est un cadeau de notre nouvelle naissance. On nous dit que c'est Dieu qui donne la foi. Un cadeau et une puissance pour tenir ferme, une foi résolue, affermie en nous par le Saint-Esprit, parce que notre décision, c'est de rester dans les commandements de Dieu, de ne pas nous écarter des commandements de Dieu. La foi en Jésus, Fils de Dieu, qui a offert sa vie pour nous sauver du pouvoir de Satan, qui par sa résurrection nous a introduits dans la famille de Dieu, la famille d'un Père qui nous aime et dont nous aimons les commandements parce qu'eux sont amour et vérité. Eux ne sont pas trompeurs. Et cette vie nouvelle en Jésus-Christ assure la victoire sur un monde cherchant à nous asservir, à faire rentrer en nous des compréhensions qui ne sont pas la vie de Dieu, qui cherche à rentrer en nous de fausses doctrines, comme au moment où Jean écrivait cela. Et bienheureux sommes-nous que nous avons ce cadeau de la foi, et nous sommes exhortés à tenir ferme dans cette foi. Jésus est le Fils de Dieu qui nous a sauvés. Nous sommes entrés dans une vie nouvelle, il nous a arrachés au pouvoir de Satan, et celui qui est en nous est plus fort que celui qui domine ce monde. Je vous propose de terminer par la prière. Seigneur, ces paroles, Jean les a écrites il y a bientôt 2000 ans. Elles viennent de toi. C'est toi qui les inspirais. Ces paroles étaient suffisantes pour tenir ton Église debout à cette époque où tout semblait tellement contraire, où la puissance étalée des politiques du monde semblait incompressible et où les déviations dans l'Église semblaient tellement imprégnées qu'on voyait peu d'issue pour cette Église. Et pourtant l'Église est toujours là, et Domitien n'est plus là, et l'Empire romain a disparu. Mais ton Église est toujours présente, parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont gardé cette foi que ton esprit en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde, plus grand que tous ces faux discours, plus grand que tous ces appâts. Seigneur, garde-nous dans la foi, que ta volonté soit faite en nous, que ton nom soit glorifié et que l'Église te manifeste. Amen. Amen.